Chapitre 22. Beverly Hills, samedi 27 décembre 1980. Tony Harrod était planté dans une starlette vieillissante lorsqu'on l'appela de Washington. Tari Easton avait 42 ans, soit 20 ans de trop pour le rôle qu'elle souhaitait obtenir dans Traite des Blanches, mais l'âge et la forme de sa poitrine auraient été parfaits pour ce rôle. Harrod contemplait ses seins tandis qu'elle le chevauchait vigoureusement, et il crut distinguer des traces rose pâle là où on y avait injecté du gel de silicone. Leur fermeté était si artificielle qu'il bougeait à peine, alors que Tari allait et venait au-dessus de lui, rejetant la tête en arrière dans un excellent simulacre de passion, la bouche grande ouverte, les épaules rejetées en arrière. Harrod ne l'utilisait pas, il se contentait de se servir d'elle.
« Vas-y, chérie, mets-la-moi toute, vas-y, mets-la-moi toute !»
Alta l'ingénue vieillissante en qui Variety avait vu la nouvelle Elizabeth Taylor. C'était en 1963, et elle était finalement devenue la nouvelle Stella Stevens.
« Mets-la-moi toute » souffla-t-elle. « Crache-moi ta purée, chérie, vas-y, vas-y !»
Tony Harrod faisait de son mieux. Durant le dernier quart d'heure, leur emportement s'était transformé en un acte mécanique laborieux. Tari était une experte. Elle était aussi bonne dans sa partie que toutes les starlettes porno que Harrod avait pu faire tourner. C'était un pur fantasme qui anticipait le moindre de ses désirs, dont la moindre des caresses lui procurait du plaisir, qui avait appris depuis longtemps que le mâle ne se souciait que de son pénis et qui agissait en conséquence. Elle était parfaite. Harrod aurait tout aussi bien pu baiser un trou de serrure tant il se sentait excité.
« Vas-y, chérie, mets-la-moi toute »
haleta-t-elle, bien dans la peau de son personnage, se trémoussant comme une cowgirl chevauchant un taureau mécanique chez Gillies. «
La ferme !» dit Harrod,
et il se concentra pour atteindre l'orgasme. Il ferma les yeux et se rappela l'hôtesse de l'air à bord de l'avion de Washington 15 jours plus tôt. Est-ce que c'était bien la dernière? Les deux Allemandes qui s'étaient caressées dans le sauna? Non, il ne voulait plus penser à l'Allemagne. Plus il se besognait, moins Harrod était dur. Des gouttes de sueur se détachaient des seins de Tari pour tomber sur son torse. Harrod se rappela Maria Chen lorsqu'il l'avait libérée de la drogue 3 ans plus tôt, la sueur sur son front, son corps nu, ses mamelons durcis par l'eau glacée dont Harrod humectait sa peau, les gouttelettes luisantes sur le triangle noir de sa toison pubienne.
« Vas-y, chérie !»
murmura Tari, percevant l'approche du triomphe, redressant la tête comme un cheval fourbu sentant enfin l'écurie.
« Donne-moi tout ce que tu as, chérie !»
Harrod s'exécuta. Tari gémit, se convulsa, se roidit dans un simulacre d'extase qui lui aurait valu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière s'il avait existé une catégorie du meilleur orgasme.
« Oh, chérie, chérie, tu es si fort »
dit-elle d'une voix languide, ses mains dans les cheveux de Harrod, le visage au creux de son épaule, ses seins lui frôlant le torse. Harrod ouvrit les yeux et vit que le voyant du téléphone clignotait.
« Dégage » dit-il.
Elle se blottit contre lui pendant qu'il demandait à Maria Chen de lui transmettre l'appel.
« Harrod, ici Charles Colben !»
gronda une voix de brute qui lui était familière.
« Ouais ?»« Vous partez cette nuit pour Philadelphie. Nous vous retrouverons à l'aéroport. »
Harrod écarta la main de Tari de son bas-ventre. Il contempla le plafond.
« Harrod, vous êtes toujours là ?»«
Ouais. Pourquoi Philadelphie ?»«
Ne posez pas de questions et répliquez. » »«
Et si je ne veux pas ?»
Ce fut au tour de Colben de rester silencieux.
« Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je laisse tomber !» dit Harrod.
Il jeta un regard à Tari Easton. Elle fumait une cigarette mentholée. Ses yeux étaient aussi bleus et aussi vides que l'eau de la piscine de Harrod.
« Pas question !» dit Colben. « Vous savez ce qui est arrivé à Trask ?»«
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a une place à pourvoir au comité de direction de l'Island Club. »«
Je ne suis pas sûr que ça m'intéresse encore. »
Colben éclata de rire.
Harrod, pauvre connard, vous feriez mieux d'espérer que nous allons continuer à nous intéresser à vous.
Sinon, tous vos petits copains de Hollywood vont être obligés d'aller assister à une nouvelle cérémonie à Forest Lawn. Vous prenez le vol de la United qui décolle à 2 heures du matin. »
Harrod reposa soigneusement le combiné, se leva et enfila un peignoir orange brodé à ses initiales. Tari écrasa sa cigarette et le regarda à travers le rideau de ses cils. Sa posture nonchalante rappela à Tony Harrod un film érotique à petit budget que Jane Mansfield avait tourné en Italie peu de temps avant de perdre la tête dans un accident de voiture.
« Chérie, »
souffla-t-elle, apparemment comblée par leurs ébats.
« Tu veux en parler ?»«
De quoi ?»«
Du projet, évidemment, gros bêta »
gloussa-t-elle.
« Bien sûr, » dit Harrod en allant au bar se servir un grand verre de jus d'orange. « Le film s'intitule « Traite des Blanches » et il est basé sur le bouquin qui s'est vendu comme des petits pains l'automne dernier. C'est Shu Williams qui le réalise. On a prévu un budget de 12 millions de dollars, mais Alan s'attend à un dépassement. Ça fait donc 1 million tout de suite, plus un pourcentage. »
Harrod savait que Tari était au bord d'un orgasme non simulé cette fois-ci.
« Ronnie dit que je suis parfaite pour le rôle, »
murmura-t-elle.
« C'est pour ça que tu le payes. »
Harrod avala une grande gorgée de jus d'orange. Ronnie Bruce était l'agent et l'animal de compagnie préféré de Tari.
« Ronnie m'a dit que tu lui avais dit que j'étais parfaite pour le rôle. »
Il y avait une nuance de bouderie dans sa voix.
« En effet, c'est exact. »
Il eut un sourire de crocodile.
« Pas pour le rôle principal, bien sûr. Tu as 25 ans de trop, tu as de la cellulite plein le cul, et on dirait que tes Robert ont avalé une balle de baseball. »
Tari hoqueta comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Harrod finit son verre. Ses paupières étaient très lourdes.
« Mais on n'a encore trouvé personne pour interpréter le rôle de la vieille tante de l'héroïne qui part à sa recherche. Son texte n'est pas terrible, mais elle a une très bonne scène de viol collectif dans le souk de Marrakech. »
Les mots se décidèrent à sortir de la bouche de Tari.
« Espèce de petit enculé de... »
Harrod eut un large sourire.
« J'en déduis que t'es peut-être intéressé. Réfléchis encore un peu, ma chérie. Dis à Ronnie de m'appeler et on déjeunera ensemble. »
Il reposa son verre et se dirigea vers le jacuzzi.
« Pourquoi nous avoir fait prendre l'avion en pleine nuit ?»
demanda Maria Chen alors qu'il se trouvait quelque part au-dessus du Kansas. Harrod contempla les ténèbres dehors.
« À mon avis, c'était juste pour m'embêter. »
Il se cala dans son siège et regarda Maria Chen. Leur relation s'était altérée depuis l'Allemagne. Il ferma les yeux, revit son propre visage gravé sur une pièce d'échecs en ivoire, les rouvrit.
« Qu'y a-t-il à Philadelphie ?»
demanda Maria Chen. Harrod pensa à citer W.C. Fields, puis décréta qu'il était trop fatigué pour faire de l'humour.
« J'en sais rien, »
dit-il.
« Willy ou cette Fuller ?»«
Que faisons-nous si c'est Willy ?»«
On fout le camp en vitesse. Je compte sur vous pour m'aider. »
Harrod regarda autour de lui.
« Vous avez pris le Browning, comme je vous l'avais dit ?»«
Oui. »
Elle rangea la calculette sur laquelle elle essayait d'établir un budget vestimentaire.
« Et si c'est la Fuller ?»
Personne n'était assis à moins de 3 rangées d'eux. Les rares passagers de première classe étaient tous endormis.
« S'il n'y a qu'elle, je la tue. »«
Tout seul ou avec mon aide ?»«
Tout seul, »
répliqua sèchement Harrod.
« Vous êtes sûr de pouvoir y arriver ?»
Harrod lui lança un regard noir et vit en esprit son poing défoncer sa denture parfaite. Ça vaudrait presque la peine de se faire arrêter, clouer au pilori, rien que pour briser cette putain d'impassibilité orientale. Rien qu'une fois. La cogner et la baiser ici, dans la cabine de première classe, du vol United, reliant L.A. à Philly, via O'Hare.
« Oui, j'en suis sûr, » dit-il. « Ce n'est qu'une vieille dame, bordel. »
Willy était... est un vieil homme.
Vous avez vu de quoi Willy est capable. Il a dû aller directement de Munich à Washington, rien que pour régler son compte à Trask. Il est dingue, bordel.
Vous ne savez rien sur cette Fuller.
Harrod secoua la tête. C'est une femme.
Aucune femme au monde ne peut être aussi vicelarde que Willie Borden. Leur avion atterrit à Philadelphie une demi-heure avant l'aube. Harrod n'était pas parvenu à dormir. La cabine de première de l'avion qu'ils avaient pris à Chicago semblait avoir été reconvertie en frigo, et il avait l'impression que l'intérieur de ses paupières avait été enduit de gravier et de colle. Sa mauvaise humeur s'accentua encore lorsqu'il constata que Maria Chen paraissait fraîche et reposée. Ils furent accueillis par trois agents du FBI, si propres sur eux que c'en était écœurant. Leur chef était un beau gosse, au menton orné d'un bleu à moitié recouvert par un pansement. « Monsieur Harrod, » dit-il, « nous allons vous conduire à Monsieur Colben. » Harrod lui tendit son sac de voyage. « Ouais, pressons, j'ai envie d'aller me coucher. » L'agent tendit le sac à l'un de ses collègues, et le petit groupe descendit une série d'escalators, franchit une série de portes étiquetées « entrée interdite » et aboutit sur la piste, entre le terminal principal et un hangar privé. À l'est, les nuages étaient striés de traînées rouges et jaunes, annonciatrices du lever du soleil, mais les balises étaient encore allumées. « Oh merde !» dit Harrod avec un désespoir non fin. Devant lui se trouvait un hélicoptère à six places, à la coque profilée, peinte de rayures blanches et oranges. Les rotors tournaient doucement et les feux de position clignotaient. Un des agents ouvrit la portière, pendant que l'autre rangeait les bagages de Harrod et de Maria Chen dans la soute. Charles Colben apparut derrière la portière ouverte. « Merde !» répéta Harrod en se tournant vers Maria Chen. Elle hocha la tête. Harrod détestait voler en règle générale, mais il haïssait les hélicoptères plus que tout. À une époque où le plus minable des metteurs en scène hollywoodiens dépensait le tiers de son budget à louer ces engins stupides et dangereux qui ne cessaient de bourdonner et de tournoyer au-dessus du plateau comme des vautours déments se prenant pour Dieu le Père, Tony Harrod refusait purement et simplement de s'y laisser embarquer. « Nom de Dieu, de bordel de merde ! Il n'y a pas de transport terrestre dans ce trou !» glapit-il pour couvrir le bruit régulier des rotors. « Montez !» ordonna Colben. Harrod émit quelques ultimes commentaires et suivit Maria Chen dans l'engin. Il savait que les rotors étaient au moins à 2,40 mètres du sol, mais jamais un homme sain d'esprit n'aurait pu passer sous ces lames invisibles sans courber les épaules et marcher en crabe. Ils étaient encore en train d'attacher leur ceinture sur la banquette arrière lorsque Colben fit pivoter son siège et donna l'ordre de décoller au pilote. Harrod trouva à celui-ci une allure de figurant stéréotypé, blouson de cuir fatigué, visage étroit et buriné sous une casquette rouge, lieu qui semblait avoir vu le feu et qu'ennuyait tout le reste. Le pilote prononça quelques mots dans son micro, poussa un levier de la main gauche, en tira un autre de la main droite, et l'hélico rugit, s'éleva dans les airs, piqua du nez et s'avança doucement à moins de 2 mètres au-dessus du sol.
« Oh merde !»
marmonna Harrod. Il avait l'impression de faire du surf sur un océan de billes. L'appareil s'éloigna du hangar et du terminal. Le pilote eut un bref et incompréhensible dialogue avec la tour de contrôle, puis il prit de l'altitude. Avant de fermer les yeux, Harrod aperçut des raffineries, un fleuve et la masse gigantesque d'un pétrolier. « La vieille est ici, en ville !» dit Colben. « Mélanie Fuller ?»« Bien sûr que oui, bordel !» dit Colben. « Qui d'autre ? Greta Garbo ?»« Où est-elle ? » ?»« Vous le verrez tout à l'heure. »« Comment l'avez-vous retrouvée ? » ?»« Ça nous regarde. » »« Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?»« On vous le dira en temps utile. » Harrod rouvrit les yeux. « J'aime bien discuter avec vous, Chuck. C'est aussi intéressant qu'une conversation avec vos fesses. » Le chauve jeta un regard en biais à Harrod, puis sourit. « Tony, mon vieux, je vous considère comme un tas de merde. Mais Dieu sait pourquoi, Monsieur Barent pense que vous êtes digne d'appartenir au club. C'est la chance de votre vie, minable. Ne la gâchez pas. » Harrod éclata de rire et ferma les yeux. Maria Chen contempla le fleuve gris et sinueux qu'il survolait. Les gratte-ciels du centre de Philadelphie disparurent à leur droite. Ils furent remplacés par un réseau serré de maisons en briques, entrecoupées de voies express, tandis que sur la rive gauche apparaissait un immense parc aux éminences couronnées d'arbres décharnés et de paquets de neige. Le soleil se leva, telle une torche pointant sa lumière dorée entre l'horizon et les nuages bas, et des centaines de fenêtres renvoyèrent son éclat. Colben posa une main sur le genou de Maria Chen.
« Mon pilote est un ancien du Vietnam, » dit-il. « Il est comme vous. »
« Je ne suis jamais allé au Vietnam, » répondit posément Maria Chen.
« Non, » dit Colben en faisant glisser sa main vers la cuisse de la jeune femme.
Harold semblait endormi.
« Je veux dire que c'est un neutre. Personne ne l'embête. »
Maria Chen serra les jambes, bloqua d'une main l'avance de celle de l'homme du FBI. Les trois autres agents présents dans la cabine observaient la scène, tandis qu'un léger sourire se dessinait sur les lèvres de l'homme au pansement.
« Chuck, »
dit Harold sans ouvrir les yeux.
« Vous êtes gaucher ou droitier ?»
Colben se renfrogna. « Pourquoi ?»«
Je voulais seulement savoir si vous seriez encore capable de vous branler une fois que je vous aurais brisé la main droite. »
Harold ouvrit les yeux. Les deux hommes se regardèrent sans rien dire. Les trois agents déboutonnèrent leurs manteaux dans un mouvement d'ensemble qui paraissait presque chorégraphié.
« On arrive !» dit le pilote.
Colben ôta sa main et pivota vers l'avant.
« Posez-nous près du centre de communication. »
Cet ordre était superflu. Au milieu d'un quartier misérable, peuplé de maisons identiques et d'usines désaffectées, se trouvait un terrain vague que l'on avait enclos de hautes barrières. En son centre étaient garés quatre mobile homes reliés les uns aux autres. Du côté sud étaient parqués des automobiles et des fourgonnettes. Des antennes paraboliques étaient disposées sur le toit de l'une des fourgonnettes et de deux des mobile homes. Des panneaux de plastique orange désignaient clairement le point d'atterrissage. Tous les passagers courbèrent la tête pour passer sous les pales du rotor, excepté Maria Chen. L'assistante de Harold se tenait bien droite, enjambait soigneusement les flaques d'eau et les zones boueuses, et ne semblait nullement tendu. Le pilote resta à bord de l'appareil dont le moteur tournait toujours.
« Simple halte en chemin, »
dit Colben en conduisant la procession vers une caravane.
« Ensuite, vous avez du boulot. »«
Le seul boulot qui m'attend, c'est de me trouver un lit, » dit Harold.
Les deux caravanes du centre étaient orientées vers le nord et vers le sud, et reliés à leur extrémité par une porte commune. La paroi ouest n'était qu'une masse d'écrans de télévision et de consoles de communication. Huit hommes vêtus de chemises blanches et de cravates noires observaient les moniteurs et parlaient de temps en temps dans un microphone.
« Nom de Dieu !
On dirait le centre spatial de Houston !» dit Harold.
Colben acquiesça.
« Ceci est notre centre de contrôle et de communication. »
dit-il avec un brin de fierté dans la voix. L'homme assis devant la première console leva la tête et Colben enchaîna.
« Larry, voici Monsieur Harold et Miss Chen. Le directeur leur a demandé de venir jeter un coup d'œil à notre opération. »
Larry salua les deux VIP d'un hochement de tête, et Harold comprit que ces hommes étaient des agents du FBI, inconscients de la véritable nature de leur mission.
« Qu'est-ce qu'on voit en ce moment ?» demanda Harold.
Colben désigna le premier moniteur.
« Voici la maison de Queen Lane, où séjourne la suspecte et un jeune homme de race blanche dont l'identité n'a pas été établie. Elle appartient à une certaine Anne-Marie Bishop, 53 ans, célibataire, qui vit seule depuis la mort de son frère survenu en mai dernier. L'équipe Alpha a établi sa base de surveillance au premier étage d'un entrepôt de l'autre côté de la rue. Sur l'écran numéro 2, on peut voir l'arrière de cette même maison, filmée depuis le deuxième étage d'une maison située de l'autre côté de la ruelle. Sur l'écran numéro 3, ladite ruelle, filmée depuis une fourgonnette mobile. Un faux véhicule de Bell Telephone.
« Elle est là en ce moment ?»
demanda Harold en désignant l'image en noir et blanc de la maisonnette blanche. Colben secoua la tête et les conduisit devant un moniteur montrant un vieux bâtiment de pierre. De toute évidence, la caméra était placée au niveau du sol dans une rue animée, voitures et piétons entraient souvent dans le champ. « En ce moment, elle se trouve à Grumblethorpe, » dit Colben.
« Où ça ?»«
Grumblethorpe. » Colben désigna deux photocopies de documents architecturaux collés sur le mur au-dessus du moniteur. « C'est un monument historique, fermé au public la plupart du temps. Elle y passe beaucoup de temps.
« Corrigez-moi si je me trompe, » dit Harold. « La vieille dame dont nous parlons se cache dans un monument national ?»«
Ce n'est pas un monument national, » répondit sèchement Colben. « Rien qu'une maison d'intérêt historique au plan local. Mais oui, elle y passe le plus clair de son temps. Le matin, du moins depuis que nous la surveillons, elle retourne dans la maison de Queen Lane avec l'autre vieille dame et le gamin, sans doute pour se doucher et manger chaud.
« Bon Dieu !»
Harold parcourut du regard les agents et leur équipement.
« Combien d'hommes avez-vous mobilisé pour cette mission, Chuck ?»«
64. » Les autorités locales ont été informées de notre présence, mais elles ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Nous aurons sans doute besoin de faire un peu de nettoyage après la fin des opérations.
Harold eut un large sourire et se tourna vers Maria Chen. 64 G-men, cette saleté d'hélicoptère, $1 million de machines sorties tout droit de la guerre des étoiles, tout ça pour capturer une vieille folle de 80 ans.
Larry et deux de ses collègues le regardèrent d'un air un peu surpris.
« Continuez à bien bosser, mes amis !» dit Harold de sa plus belle voix de VIP. « La nation est fière de vous !»«
Allons dans mon bureau !» dit Colben d'une voix glaciale. Les bureaux occupaient la totalité d'une caravane située au sud des deux précédentes. Celui de Colben était un peu plus grand qu'un placard à balai, un peu plus petit qu'une pièce normale.
« Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette installation ?» demanda Harold, tandis que le directeur adjoint du FBI les faisait asseoir autour d'un bureau minuscule.
Colben hésita. « Une salle de détention et une salle d'interrogatoire, » dit-il finalement.
« Vous avez l'intention d'interroger la vieille ?»«
Non. Elle est trop dangereuse. Nous avons l'intention de la tuer. »«
Est-ce que vous détenez ou interrogez quelqu'un en ce moment ?»«
Peut-être. Vous n'avez pas besoin de le savoir. » Harold soupira.
« Ok, Chuck. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ?»
Colben jeta un regard vers Maria Chen. « C'est confidentiel. » « Pouvez-vous fonctionner sans la présence de Connie Chung, Tony ?»«
Non. Et si vous posez encore la main ou la bouche sur elle, mon vieux Chucky, Barent aura un autre siège à pourvoir à l'Island Club. »
Colben eut un sourire pincé.
« Il faudra vraiment que nous réglions ça un jour ou l'autre. »«
Plus tard. »«
En attendant, nous avons une mission à accomplir. Et vous avez du travail. Pour une fois. »
Il fit glisser une photographie sur le bureau. Harold l'étudia. Un cliché polaroïde en couleur, pris en lumière naturelle et montrant une jeune noire séduisante, 22 ou 23 ans, debout au coin d'une rue et attendant que le feu passe au rouge. Elle avait les cheveux crépus, mais pas assez longs pour qu'on puisse qualifier sa coiffure d'afro, des yeux expressifs, un visage à l'ovale délicat et une bouche aux lèvres pleines.
Harold baissa les yeux vers ses seins, mais le manteau en poil de chameau qu'elle portait était trop épais pour lui permettre de les apprécier.
« Pas mal, » dit-il.
« Elle n'a pas l'étoffe d'une star, mais je pourrais sans doute lui obtenir un bout d'essai ou un petit rôle. Qui est-ce ?»«
Nathalie Preston. » Les yeux fixes de Harold trahissaient son ignorance. Son papa s'est retrouvé mêlé au règlement de compte entre Nina Drayton et Melanie Fuller. Il y a 15 jours à Charleston.
Et alors?
Alors il est mort. Et voilà que la jeune Miss Preston débarque à Philly.
Elle est ici en ce moment?
Oui.
Vous pensez qu'elle est à la recherche de la vieille?
Non, Tony. Nous pensons que la fille éplorée a laissé tomber le cadavre de son père, ainsi que ses études universitaires à Saint-Louis, et qu'elle est venue à Germantown, Pennsylvanie, par pur intérêt pour l'histoire ancienne de l'Amérique.
« Bien sûr qu'elle est sur la piste de la vieille dame, espèce de crétin !»«
Comment l'a-t-elle retrouvée ?» Harold fixait la photographie. grâce aux membres de la bande. Comme Harold le regardait sans comprendre, Colben s'exclama.
« Bon Dieu, il n'y a donc ni journaux ni télé à Hollywood ?»«
J'ai été très occupé à mettre sur pied un projet de film de 12 millions de dollars. »« Quelle bande ?»
Colben lui parla des meurtres commis la nuit de Noël.
« Et il y en a eu deux autres depuis, » conclut-il. « Des trucs atroces. »
Comment cette jolie poupée en chocolat a-t-elle pu faire le rapprochement entre Mélanie Fuller et des nègres qui s'étripent à Philadelphie ? Et comment avez-vous appris sa présence ici et celle de la vieille dame ?
Nous avons nos sources.
Quant à cette salope de noir, nous avons mis son téléphone sur table d'écoute, ainsi que celui du petit malin de shérif qui la baise. Il se laisse des petits messages adorables sur son répondeur. Un de nos hommes va régulièrement en effacer certains et laisse ceux qui nous arrangent.
Harold secoua la tête. Je ne pige pas. Qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça ?
Colben se mit à manipuler un coupe-papier.
Monsieur Barent a décidé que ce travail était dans vos cordes, Tony.
Quel travail ?
Harold tendit la photographie à Maria Chen.
Vous occupez de Miss Preston.
On avait dit que je m'occuperais de la Fuller. Et d'elle seulement.
Colben haussa un sourcil.
Qu'est-ce qu'il y a, Tony ? Cette fille vous fait aussi peur que l'avion ? Vous avez peur d'autre chose, minable ?
Harold se frotta les yeux et bâilla.
Réglez ce petit détail, reprit Colben. Et il est possible que vous n'ayez pas à vous soucier de Mélanie Fuller.
Qui a dit ça ?
Monsieur Barent. « Bon Dieu, Harold, on vous propose une entrée gratuite dans le club le plus sélect de l'histoire. Je sais que vous n'êtes pas malin, mais ne vous faites pas plus stupide que vous ne l'êtes. »
Harold bâilla à nouveau.
« Est-ce que l'un de vos empêchés du bulbe a seulement pensé que vous n'avez pas besoin de moi pour faire votre sale besogne ? Vous avez la vieille dame dans l'objectif de vos caméras plusieurs fois par jour, vous l'avez dit vous-même. Remplacez vos caméras par un fusil à lunettes et votre problème sera résolu. » « Et qu'est-ce que vous voulez à Nathalie Machin ? Elle a le talent ou quoi ?»«
Non. » »«
Nathalie Preston a une maîtrise de l'université d'Oberlin et les deux tiers de son diplôme d'enseignante. C'est une jeune dame non violente. »«
Pourquoi moi alors ?»«
Votre écho. Nous devons tous payer notre écho. »
Harold reprit la photographie que lui tendait Maria Chen. « Quel sort lui réservez-vous ? Détention et interrogation ?
Inutile.
Nous pouvons obtenir toutes les informations qu'elle serait susceptible de nous fournir auprès de...
d'une autre source.
Nous voulons seulement qu'elle sorte du jeu.
De façon permanente. »
Colben gloussa.
Vous aviez une autre idée, monsieur Harold.
Je pensais qu'elle aimerait peut-être prendre des vacances involontaires à Beverly Hills.
Les paupières de Harold étaient très lourdes. Il s'humecta les lèvres d'un bref coup de langue.
Nouveau gloussement de Colben.
Comme vous voulez.
Mais en fin de compte, il vous faudra trouver une solution permanente en ce qui concerne cette... comment avez-vous dit ? Cette jolie poupée en chocolat. Ce que vous ferez d'elle avant de conclure ne regarde que vous, mon vieux Tony. Mais pas de gaffe.
Comptez sur moi.
Harold jeta un regard à Maria Chen, puis examina de nouveau la photographie.
« Vous savez où elle est en ce moment ?»«
Oui. »
Colben prit un porte-bloc et consulta le listing qui y était fixé.
« Elle se trouve encore au Chelten Arms, un petit hôtel à une douzaine de pâtés de maison d'ici. Haynes peut vous y conduire en voiture. »
« Rien à faire. D'abord, je veux une chambre d'hôtel pour chacun de nous. Une belle chambre, une suite si possible, et ensuite 7 ou 8 heures de sommeil.
Mais, monsieur Barent,
que si Arnold Barent aille se faire foutre ? Dit Harold en souriant. Ou qu'il vienne lui-même s'occuper de cette nénette s'il n'est pas content. Maintenant, dites à Haynes ou à un autre de nous conduire dans un bon hôtel.
Et Nathalie Preston ?
Harold s'arrêta sur le seuil.
« Je suppose que cette jeune dame est, elle aussi, placée sous surveillance. »«
Bien entendu. »«
Eh bien, dites à vos gars d'essayer de ne pas la perdre de vue pendant encore 8 ou 9 heures, Chuck. »
Il se retourna vers la porte, mais marqua encore une pause, ramenant son regard sur Colben.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Ça fait au moins 2 ou 3 jours que vous avez Mélanie Fuller dans le collimateur. Pourquoi faites-vous traîner les choses? Pourquoi ne pas l'éliminer et foutre le camp d'ici?
Colben ramassa le coupe-papier.
Eh bien, nous attendons, au cas où il y aura un rapport entre cette chère Miss Fuller et votre ancien boss, Monsieur Borden. Nous attendons que Willy commette une erreur. Nous attendons qu'il se montre.
Et si ça arrive?
Colben sourit et fit courir la lame émoussée du coupe-papier sur sa gorge.
Si ça arrive? Quand ça arrivera?
Votre ami Willy va regretter de ne pas s'être trouvé dans la même pièce que Trask quand la bombe a explosé. Harold et Maria se virent offrir des chambres au Chestnut Hill Inn, un hôtel huppé situé à 10 kilomètres de Germantown Avenue, loin de la ville et de ses taudis, dans un quartier de parc privé et d'allées bordées d'arbres. Colben y était également descendu. L'agent au menton blessé ordonna à un subalterne blond d'y rester en poste avec sa voiture. Harold dormit 6 heures et se réveilla désorienté et plus fatigué qu'à son arrivée. Maria Chen lui prépara une vodka orange et s'assit au bord de son lit pendant qu'il la buvait.
« Qu'allez-vous faire de la fille ? »
demanda-t-elle. Harold reposa son verre et se frictionna les joues.
« Ça a une importance quelconque pour vous ? » ?»«
Non. »
« Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de le savoir. »«
Voulez-vous que je vous accompagne ?»
Harold réfléchit à cette proposition. Il ne se sentait jamais à l'aise quand personne n'était là pour protéger ses arrières, mais il ne pensait pas qu'une telle précaution soit nécessaire dans le cas présent. Plus il y réfléchissait, moins elle lui paraissait s'imposer.
« Non, restez ici et occupez-vous de la correspondance avec Paramount. Je n'en aurai pas pour longtemps. »
Maria Chen quitta la chambre sans ajouter un mot. Harold se doucha et enfila un pull à col roulé en soie, un pantalon de laine coûteux et un blouson d'aviateur noir doublé en peau de mouton. Il appela le numéro que Colben lui avait donné.
« Nathalie Machin est toujours dans le coin ?» demanda Harold.
« Elle est allée se promener dans les taudis, mais elle est revenue dîner à son hôtel, » dit Colben.
« Elle passe pas mal de temps avec cette bande de nègres.
Celle qui a perdu quelques membres ?»
Colben se mit à rire de bon cœur.
« Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, bordel ?» demanda Harold.
« La façon dont vous le dites, » répondit Colben en riant.
« Perdu quelques membres.
C'est exactement ce qui leur est arrivé. Les 2 derniers se sont fait découper en morceaux et on leur a tranché la bite.
« Nom de Dieu !»
Et vous pensez que c'est Mélanie Fuller qui a fait le coup?
Nous n'en savons rien.
Nous n'avons pas vu le gamin qui l'accompagne quitter Grumblethorpe au moment des meurtres. Mais peut-être qu'elle utilise quelqu'un d'autre.
Quel genre de surveillance effectuez-vous sur Grumblethorpe?
Ça pourrait être mieux. On ne peut pas installer un fourgon du téléphone dans chaque ruelle. Même une vieille dame finirait par avoir des soupçons. Mais nous avons une bonne couverture sur le devant, une caméra à l'arrière et des agents dans tout le pâté de maison. Si cette vieille salope met le nez dehors, nous la tenons.
Tant mieux pour vous. Écoutez, si j'arrive à régler l'autre détail ce soir, je veux être parti d'ici dès demain matin.
Il faudra qu'on en parle à Barent.
Pas question.
Je ne vais pas poireauter ici jusqu'à ce que Willy se montre. Ça risquerait de prendre du temps. Willy est mort.
Vous n'aurez pas longtemps à attendre. Nous avons reçu le feu vert au sujet de la vieille dame.
C'est pour aujourd'hui?
Non, mais ça ne tardera pas.
Quand?
Nous vous le dirons si vous avez besoin de le savoir.
Ça m'a fait plaisir de vous parler, la fesse, dit Harold.
Et il raccrocha. Le jeune agent blond conduisit Harold en ville.
Il lui montra le Chelten Arms et trouva une place de parking à 1/2 pâté de maison de là.
Harold lui donna un pourboire de 25 cents. C'était un vieil hôtel qui s'efforçait de conserver sa dignité en ces temps difficiles. Le foyer était plutôt miteux, mais le bar-restaurant, agréablement sombre, avait été récemment rénové. Harrod songea que la clientèle du déjeuner devait être en majeure partie composée des rares hommes d'affaires blancs travaillant encore dans le quartier. La jeune noire fut facile à repérer. Elle était assise seule dans un coin, en train de manger une salade, tout en lisant un livre de poche. Elle était aussi séduisante que l'avait promis le cliché Polaroid. Plus séduisante même, pensa Harrod, en voyant les seins plantureux qui emplissaient son chemisier ocre. Il passa une minute au bar, tentant de repérer les fileurs du FBI. Le jeune type accoudé au bar, costume trois pièces trop cher et sonotone, était sûrement l'un d'eux. Harrod mit un peu plus longtemps à repérer le noir obèse qui mangeait des moules et regardait Nathalie toutes les cinq minutes. « Est-ce qu'on recrute des nègres au FBI aujourd'hui ?» se demanda Harrod. « Ils ont sans doute un quota à respecter. » Il supposa qu'un troisième agent devait être en poste dans le hall, sans doute en train de lire un journal. Il prit son verre de vodka and tonic et se dirigea vers la table de Nathalie Preston.
« Salut. Ça vous dérange que je vous tienne compagnie quelques minutes ?»
La jeune femme leva les yeux de son livre. Harrod en lut le titre. « Enseigner pour rester jeune. »«
Oui, » dit-elle, « ça me dérange. »«
Parfait, » dit Harrod en posant son blouson sur le dossier d'une chaise. « Moi, ça ne me dérange pas. »
Il s'assit. Nathalie Preston ouvrit la bouche et Harrod tendit son esprit. Pressa doucement, tout doucement. Aucun mot ne franchit les lèvres de la jeune femme. Elle essaya de se lever et se figea après avoir esquissé un geste. Ses yeux étaient immenses. Harrod lui sourit et se laissa aller contre le dossier de son siège. Personne n'était à portée de voix de leur table. Il se croisa les mains sur le ventre.
« Tu t'appelles Nathalie. Moi, c'est Tony. Ça te dirait qu'on s'amuse un peu tous les deux ?»
Il relâcha son étreinte pour lui permettre de murmurer, mais pas de crier. Elle baissa la tête et hoqueta. Harrod secoua la tête.
« Tu ne joues pas le jeu, Nathalie, mon bébé.
J'ai dit, ça te dirait qu'on s'amuse un peu tous les deux ?» Nathalie leva la tête, pantelante, comme si elle courait depuis une heure. Ses yeux étaient luisants. Elle s'éclaircit la gorge, s'aperçut qu'elle pouvait parler et murmura
« Allez au diable, espèce de salaud !»
Harrod se redressa.
« Tut, tut !» fit-il. « Réponse incorrecte !»
Il regarda Nathalie se raidir sous l'effet de la douleur qui lui taraudait soudain le crâne. Harrod avait souffert de terribles migraines étant enfant. Il savait les partager. Un garçon qui passait par là s'arrêta pour lui demander
« Vous vous sentez bien, mademoiselle ?»
Nathalie se redressa lentement, comme une poupée mécanique qu'on déplie. Sa voix était rauque.
« Oui, »
dit-elle.
« Ça va. J'ai simplement des règles douloureuses. »
Le garçon s'éloigna lentement, gêné. Harrod ne put s'empêcher de sourire.
« Bon Dieu » pensa-t-il.
« Quel ventriloque j'aurais fait !» Il se pencha pour caresser la main de la jeune femme. Elle essaya de la retirer. Harrod dut se concentrer plus que de coutume pour l'en empêcher. Les yeux de Nathalie ressemblaient à ceux d'un animal pris au piège, une expression qu'il adorait.
« Reprenons depuis le début, » dit Harrod. « Qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir, Nathalie ?»«
J'aimerais te sucer. » « La bite !»
Harrod dut lui arracher chaque syllabe de la gorge, mais cela ne le dérangeait pas. Les grands yeux bruns de Nathalie s'emplirent de larmes.
« Et puis ?»
demanda Harrod d'une voix langoureuse. Il plissa le front sous l'effet de la concentration. Cette poupée en chocolat était plus difficile à contrôler que la plupart de ses sujets habituels.
« Et puis ?» « Veux que tu me baises. »«
Bien sûr, chérie. Je n'ai rien de mieux à faire durant les deux prochaines heures. Montons dans ta chambre. »
Ils se levèrent en même temps.
« Vaudrait mieux laisser un peu de fric, »
dit Harrod. Nathalie laissa choir un billet de $10 sur la table. Harold lança un clin d'œil aux deux agents en sortant du bar. Un troisième homme, vêtu d'un costume sombre, abaissa son journal et les regarda tandis qu'ils attendaient l'ascenseur. Harold lui sourit, forma un cercle avec l'index et le pouce de sa main gauche et y fit coulisser à 6 reprises le méduse de sa main droite. L'agent rougit et releva son journal. Personne ne les suivit dans l'ascenseur, ni dans le couloir du deuxième étage. Harold prit les clés de Nathalie et ouvrit la porte. Il la laissa debout sur le seuil, les yeux vides, pendant qu'il inspectait la chambre. Petite mais propre, avec un lit, une table, un poste de télé noir et blanc sur un support pivotant, et une valise ouverte sur une étagère basse. Harold s'empara d'un slip, s'en caressa le visage, jeta un coup d'œil dans la salle de bain, un autre par la fenêtre, découvrant un escalier de secours, une ruelle et des toits.
« Bien !»
dit-il d'une voix enjouée, jetant le slip au loin et tirant à lui un fauteuil bas dans les tons verts placés contre le mur. Il s'assit.
« Que le spectacle commence, ma biche !»
Elle s'immobilisa entre lui et le lit. Ses bras pendaient le long de ses flancs. Son visage était flasque et inexpressif, mais Harold vit au petit frisson qui la parcourait qu'elle tentait désespérément de se libérer. Il sourit et raffermit son étreinte.
« Un petit striptease avant d'aller se coucher, ça fait toujours plaisir, tu ne crois pas ?»
Nathalie Preston continua de regarder droit devant elle lorsque ses mains se levèrent et commencèrent à déboutonner lentement son chemisier. Elle tira sur ses pans et le laissa tomber sur le sol. En voyant ses seins plantureux retenus par un soutien-gorge blanc d'un style démodé, Harold se rappela quelqu'un. Mais qui ? Il se souvint soudain de l'hôtesse de l'air 15 jours plus tôt. Sa peau était aussi pâle que celle de cette poule était sombre. Pourquoi donc portait-elle tout le même type de soutien-gorge banal et peu excitant ? Harold hocha la tête, et Nathalie mit les mains derrière le dos pour dégrafer son soutien-gorge. Celui-ci glissa en avant le long de ses bras et tomba par terre. Harold contempla les larges aréoles brunes et s'humecta les lèvres. Elle allait s'amuser un peu toute seule avant de s'occuper de lui.
« Bien, » dit-il doucement. « Je pense que le moment est venu de... »
Il y eut un énorme fracas, et Harold fit volte-face, juste à temps pour voir la porte s'ouvrir à la volée et un corps massif occulter la lumière du couloir, juste à temps pour se rendre compte qu'il avait laissé le Browning dans les bagages de Maria Chen. Harold avait commencé à se redresser, commencé à lever les bras, lorsqu'un objet aussi gros et lourd qu'une enclume atterrit au sommet de son crâne et le fit retomber sur le fauteuil, à travers les coussins, à travers la substance molle d'un sol qui venait subitement d'adopter la texture du tapioca, puis dans les chaudes ténèbres qui l'attendaient sous le sol.